Mais qu'est-ce que ça?
Hein? Mais qu'est-ce? Je comprends rien.
Oh! Ça sent donc bien drôle. Dossier bizarre.
Bonjour tout le monde, un nouvel épisode de Dossier bizarre après la pause des fêtes, hausse dans la pandémie, nouveau confinement, des couvre-feux un peu partout à travers la planète. Alors c'est le moment idéal d'écouter des bons podcasts, des bonnes balados. Alors je suis en compagnie de Tristan Brunet-Dupont, bon matin!
Bonjour Jason Lévesque!
Ou bonne soirée ou bon après-midi, on sait pas à quelle heure les gens nous écoutent.
Effectivement, peut-être qu'ils vont écouter cette émission-là même dans 3 ans, tomber là-dessus par hasard sur Spotify, donc bonjour 2023!
Ben oui, ben c'est ça, hein, on voyage dans le temps et on le sait même pas. Ah, c'est magnifique!
Exact, c'est la magie des podcasts, hein, ça se retrouve sur les plateformes, puis ça disparaît, ça reste un peu partout, indéfiniment.
Ben oui, puis bref. Même, Tristan, juste pour faire un petit peu de millage là-dessus, c'est malgré qu'on a des périodes, parce que là, bon, avec le confinement, avec la pandémie, avec la distance également, et Facebook qui fait des coucous, on a des périodes où on peut malheureusement pas produire, parce que bon, c'est impossible là, de réussir à se synchroniser, mais on continue à avoir beaucoup de mouvements dans nos statistiques, les gens qui continuent à interagir avec nous, c'est des nouveaux auditeurs qui nous découvrent encore, même durant les périodes où on est un peu moins actifs.
Exactement, non, c'est vrai, on n'en a pas fait depuis à peu près un mois, et puis à chaque jour, notification Facebook, deux personnes ont aimé la page Dossier bizarre, je suis comme, ah ben tabarouette, c'est encourageant. Moi c'est clair qu'on n'en a pas fait depuis un mois, mais j'ai plein d'idées de sujets qui sont apparus dans ma tête, donc là on est reparti, Jason.
Eh oui, et la première diffusion de cette balado, ou la première fois où il sera disponible, c'est mercredi le 20 janvier 2021. On n'en parlera pas plus que ça, juste noter que c'est une date historique où Donald Trump perdra son immunité présidentielle. Alors, il va se passer probablement bien des choses à partir d'aujourd'hui. Pas nécessairement toujours positif pour le monsieur, mais bon, on le salue, Donald, qui est un fidèle auditeur.
Effectivement, je pense que j'ai entendu par-delà les brumes qu'il allait avoir à peu près 25 000 soldats de l'armée américaine.
C'est ça. La garde nationale qui est déjà postée un petit peu partout là, en prévision de cette inauguration. On lui a proposé à Joe Biden de la faire de manière virtuelle pour sa sécurité et il a refusé. Il a dit qu'il voulait être sur scène. Spectacle de Lady Gaga. Il y a également Jennifer Lopez là, qui est supposée se produire durant l'inauguration. Alors voilà, et ça va causer probablement de la peine à beaucoup de complotistes là, qui pensaient que Donald Trump allait ressortir gagnant de tout ça le 20 janvier. Ben malheureusement, ben non, c'est pas ça qui arrive.
En plus, il a été supprimé de Twitter et Facebook, donc on n'entendra pas parler de Donald Trump.
Je pense qu'il a été plus en colère ou il a été plus marqué par le fait d'être bloqué de Twitter que les 400 000 décès liés à la COVID dans son pays. C'est épouvantable à quel point cet homme est un narcissique fini. Ben bon, voilà, donc c'est mentionné, c'est dit. Mais là, on va y aller avec ton sujet, Tristan. C'est toi qui présentes un sujet cette fois-ci. Et c'est un sujet que ça fait, je pense que ça doit faire un an qu'on s'en parle, puis on ne l'avait pas fait encore, parce qu'il y a toujours des sujets qui arrivent. « Hey, là, lui, on va le faire tout de suite, lui, on va le faire. Ah ouais, mais là, j'ai pensé à ça. » Puis finalement, on le repoussait. Ben là, c'est là que ça se passe.
Oui, absolument. Si je dis, Jason, Motonui, Makemake, Matamua, Omaka, est-ce que ça te dit quelque chose?
Ben moi, je te dirais à tes souhaits, mais non, autre ça, ça ne me dira pas grand-chose.
On va parler de la fameuse île de Pâques.
Ah, l'île de Pâques, cette île avec les grosses têtes sur la plage.
Exactement, les statues de l'île de Pâques et l'île de Pâques. On va faire le tour, on va s'amuser, décortiquer un peu là, qu'est-ce qui s'est passé sur cette île-là, le peuplement d'origine, comment que ça s'est tragiquement terminé cette histoire des habitants de l'île de Pâques et la construction, bien sûr, des statues. Pourquoi? D'où ça vient? Comment on a fait pour bâtir ces statues de l'île de Pâques? On va essayer de faire le tour un peu, mais je tiens à le préciser, Jason, je suis vraiment loin d'être un expert... un anthropologue, archéologue, spécialiste de cette île, parce que c'est compliqué.
Ben oui, c'est compliqué, puis ça fait pas si longtemps que ça, hein, qu'on est capable d'affirmer exactement comment ça s'est passé. Et il y a encore certaines choses qui sont débattues ou mystérieuses là, autour de tout ça. Il y a des gens qui disent « cette explication-là fait du sens, mais c'est peut-être pas nécessairement la bonne. » Alors, c'est pas encore... On a beaucoup de réponses, mais c'est pas des réponses hors de tout doute encore.
Il y a énormément de questions qui restent en suspens par rapport à cette île. C'est exactement ça. Dans tous toutes les sources que je trouvais sur Internet, il y a énormément de « peut-être que... » si nous évaluons cette situation, mais telle personne a dit ça, mais l'autre a dit l'autre affaire. Bref, à un moment donné, j'étais comme, ben là, qu'est-ce que je vais pouvoir dire finalement dans le podcast? Ben écoutez, on va y aller avec un résumé, ce que les points que j'ai retirés là, qui revenaient le plus souvent à travers différentes sources. Et il y a quand même un certain une thématique, mais il y a des points, comment dire, qui sont prouvés.
Les théories générales restent quand même relativement accepté, mais c'est plutôt dans les détails ou comment on vivait ou les époques ou bon comment tout ça s'est déroulé de manière plus précise où là il y a encore beaucoup de débats.
Exactement, mais on va quand même s'amuser là à parcourir les faits connus et ça va nous donner une bonne idée là après le podcast ou après avoir fait ma recherche. J'ai quand même une meilleure idée un peu là, de qu'est-ce qui s'est passé sur cette île-là, puis qui habitait là, puis pourquoi les statues ont été bâties. C'est pas compliqué, Jason, c'est les extraterrestres.
Ah, ben voilà! Hey, merci d'avoir été là, tout le monde. On se retrouve.
ça serait simple, mais moi, quand j'étais jeune, j'avoue que je me faisais des petites peurs avec cette île-là. Je me disais, c'est clair que c'est les extraterrestres qui ont bâti ça, parce que l'île est située... En fait, je vais commencer par ce fait-là, là, c'est assez cocasse, mais l'île de Pâques se trouve à 2075 km à l'est de l'île Pitcairn, l'île habitée la plus proche. Donc, l'île habitée la plus proche est à 2000 km à peu près.
C'est quand même quelque chose, là.
Exactement. Cet éloignement lui vaut d'être le lieu le plus isolé du monde, au même titre que l'archipel Tristan d'Acuna.
Ah ben!
Donc, elle est vraiment perdue en plein milieu de l'océan Pacifique, cette île-là.
Mais c'est quand même, c'est magnifique que le lieu le plus isolé du monde ait quand même été habité, parce que s'il y a des statues là, ils sont pas tombés du ciel, là. Il y a eu du monde qui les ont faites, qui ont habité là. Alors c'est quand même assez exceptionnel que on recule très loin dans le temps, qu'il y ait eu des habitants sur cette île là.
Exactement, non, c'est vraiment surprenant. Un petit peu aussi par rapport à l'île, avant de commencer avec le peuplement de l'île, là, je tiens à dire que c'est une île qui appartient au pays du Chili.
Ah.
C'est une île qui est volcanique et elle est d'une grosseur d'environ 162 km².
OK, ça fait que c'est pas très gros, là.
Non, exactement. Elle fait partie de l'archipel de la Polynésie.
OK. La
Polynésie, c'est l'archipel qui est délimité par le triangle formé par Hawaï, la Nouvelle-Zélande et l'île de Pâques.
Excellent. Ça fait que ça nous Donc, situe...
Pardon?
Ça nous situe géographiquement.
C'est ça. Ce triangle se nomme le triangle polynésien.
Ah ben voilà. Donc, on sait à peu près où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui.
Exactement. On va y aller avec le peuplement. Donc, comment les humains ont réussi à s'établir sur une île aussi isolée et perdue en plein milieu de l'océan, en plein milieu de l'océan Pacifique? C'est hallucinant.
C'est tout petit. C'est tout petit. Il n'y a rien d'attirant là. Je veux dire, c'est pas « Oh, nous avons trouvé une grande masse de terre que nous allons peupler. » C'est comme « Oh, il y a un petit lapin là-bas, là, puis on va y aller. » C'est loin, c'est loin, puis c'est petit. Qu'est-ce qu'ils ont attiré là? Comment ils ont fait? Ben vas-y, on te laisse aller.
Oui, ben c'est vraiment... La question est mystérieuse, puis... En lisant, en fouillant, j'étais comme, mais voyons, comment ça se fait que les humains, on s'est vraiment établis partout sur le globe à une époque où on n'avait pas vraiment, on n'avait pas d'avions, on n'avait pas de gros bateaux efficaces, pratiques, mais on a quand même réussi à s'établir sur cette île. On va commencer par le tout début, donc le peuplement de l'Océanie, dont fait partie la Polynésie et la Mélanésie, s'est fait à travers deux grands mouvements migratoires.
D'accord.
Donc, le premier s'est produit il y a 50 000 à 70 000 ans et a amené des chasseurs-cueilleurs venus d'Asie à peupler l'Océanie, puis la Nouvelle-Guinée, l'Australie et finalement la Mélanésie. Ces chasseurs-cueilleurs asiatiques ne sont pas arrivés jusqu'en Polynésie. Donc, on a eu quand même un premier grand mouvement de peuplement, des gens qui sont partis de l'Asie et qui se sont rendus jusqu'en Australie, Nouvelle-Guinée et Mélanésie, mais... Il faut attendre la seconde vague de peuplement plus récente qui débute il y a environ 6000 ans.
OK.
Donc, elle amène des agriculteurs et navigateurs venus de Taïwan et parlant des langues austronésiennes, a peuplé l'insulinde, donc les Philippines, et à partir des Philippines et de l'Indonésie, en fait, ils ont attaqué les îles de l'Océanie proprement dite, donc Wallacé, Micronésie, Mélanésie, côte de la Nouvelle-Guinée, et il y a à peu près 3300 ans, c'est là que ces navigateurs sont arrivés en Polynésie.
Donc, combien d'années? 3300 ans?
Oui, donc mais ça, c'est pas l'île de Pâques. On parle des premières îles de la Polynésie. Donc, les premières îles qui ont été peuplées en Polynésie, ça date de 3300 ans. Ça fait 3300 ans.
C'est vous l'offre 3300 ans, ils ont pris leur courage à deux mains et qui ont dit « OK, les boys, on y va, puis on pense qu'il y a des îles, il y a quelque chose par là-bas. On y va, puis on s'en va explorer. » On est loin, là, 3300 ans. La conception de la géographie, de la Terre et tout ça, c'est quelque chose qui est quand même mystérieux pour eux. Là. Et on se base, bon, il y a quand même des gens qui ont un minimum de connaissances scientifiques à l'époque, là, mais ça prend quand même du courage de se lancer comme ça dans de l'exploration avec 3300 ans. Ça devait pas être des bateaux très, très, mettons, que faire quelques centaines de kilomètres dans l'eau houleuse, ça devait pas être le fun.
Ah non, c'était des pirogues avec une petite voile. Là. Imaginez traverser des milliers de kilomètres sur l'océan Pacifique, sur des petites pirogues, puis arriver sur des minuscules îles en plein milieu de l'océan Pacifique. Ça prenait du courage, c'est incroyable. Donc, ce peuplement s'est fait vraiment sur plusieurs milliers d'années. On est parti de l'Asie, on s'est installé en Indonésie, Philippines, Australie, et il y a 3300 ans, ces gens-là sont allés sur l'océan, direction l'Est, et ont découvert ces îles. La date du début du premier peuplement de l'île de Pâques, par les Polynésiens, daterait de l'an 1200 environ.
Okay.
Donc, c'est en l'an 1200 que les premiers Polynésiens ont découvert l'île de Pâques et se sont installés sur cette île.
Fait qu'on recule d'à peu près 800 ans où on a finalement eu des colons, des gens qui ont colonisé l'île de Pâques.
Là. Exactement. Et ces premiers habitants polynésiens sont appelés les Matamua.
Matamua.
Matamua veut dire les premiers en langue Rapanui.
Ah, d'accord.
Le Rapanui, c'est une langue parlée par les Polynésiens d'origine, les Rapanui.
Excellent.
Donc, les premiers, c'est les Matamua. Les immigrants Matamua, donc les premiers en Rapanui, avaient, selon la tradition orale, un chef nommé Otu Matua. Et Otu Matua, c'était un roi. C'était leur premier roi, le premier chef de l'île de Pâques.
OK.
Parfois appelé Omaka, mais aujourd'hui, on le connaît mieux sous le nom Otu Matua. Et ils ont développé, malgré des ressources assez limitées, une société complexe, bien adaptée à son environnement, avec vraiment là, une belle vie, Jason, une belle vie pendant environ 400 ans. L'importante croissance du culte des ancêtres s'est traduite par l'érection de centaines de statues Moai.
Oui, les Moai, c'est ça, je cherchais le mot tout à l'heure, c'est le nom qu'on donne à ces fameuses statues. Celles qu'on voit, c'est à peu près tout le temps, bon, quand on fait une recherche sur Internet, souvent on va voir des photos qui sont à peu près toujours dans le même secteur, que c'est des grands visages très allongés, on en voit 4, 5, 6, c'est pas mal toujours le même modèle, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup à travers toute l'île des statues, puis ils varient un peu aussi dans le style.
Absolument. Parlons un peu des statues. Là. Il y en a qui sont de 2,5 mètres à 9 mètres. Et il y en a qui peuvent peser à peu près là, autour de 20 tonnes. Mais dans les plus grosses, là, ils peuvent peser à peu près 80 tonnes. Il y a exactement, précisément, 887 statues sur l'île de Pâques.
Wow!
Et c'est justement pour en l'honneur du roi, en fait, Otu Matua. Donc, qu'on a érigé ces statues-là. Donc, le premier culte, la première religion pendant 400 ans, c'était de promouvoir le premier roi, Otu Matua, en bâtissant ces statues-là. Donc, on pourrait dire que la première religion, en fait, c'était de vraiment là, d'idolâtrer le premier roi
D'accord.
de l'île. Et c'est pour ça que les statues ont été bâties. C'est vraiment en son honneur.
Donc, est-ce que c'est toutes les statues pour ce roi-là en particulier?
Oui. Oui, parce que pendant 400 ans, la religion n'a pas vraiment changé. C'était vraiment pendant l'heure de gloire, la belle époque, de 1200 à 1600. Ils ont connu une belle civilisation avec justement cette mentalité-là de vouloir rendre honneur au premier roi, Otto Matois, en bâtissant ses statues.
Excellent.
Donc, tout autour de l'île. Et c'est assez compliqué aussi, là, la manière qu'on les a bâtis, mais il y a plusieurs hypothèses. Mais on allait les bâtir sur le volcan, parce que c'est une île volcanique.
Oui.
Et on utilisait la matière, une genre de roche volcanique, où on allait justement là, comme dans une carrière au sommet du volcan. Et après, on faisait glisser les statues sur un genre de radeau qu'on bâtissait. Et la force devait être... Ça devait demander énormément d'humains pour tirer ces statues-là. Là, mais on procédait un peu comme avec le Stone Age. C'est-à-dire qu'on bâtissait des radeaux de bois. On avait beaucoup de main-d'œuvre. Et puis, on déplaçait les statues du sommet du volcan. On les faisait glisser au bas du volcan, et après on les tirait avec des cordes. Après ça, on les installait avec des leviers, des histoires de trous, puis tout ça, on les mettait dans un trou, et on les levait debout avec un levier. Au niveau de la technique, ils étaient quand même pas pires, ces gens-là. Là,
ben oui, puis on voit hein, qu'il y a l'ingénierie qui était souvent développée. Et on revient souvent, bon, t'as fait la blague avec les extraterrestres au début. Une des raisons pourquoi il y a beaucoup de gens qui vont avancer la thèse extraterrestre avec ce genre de phénomène-là, t'as parlé du Stonehenge, on a parlé des pyramides, pyramides en Égypte, pyramides en Amérique du Sud, c'est la même chose. On dit « Ça se peut pas que du monde arriéré de même puisse avoir cette technologie-là ou ce savoir-là. » Mais on voit que les connaissances étaient pas nécessairement partagées, mais le génie humain faisait qu'on utilisait sensiblement ou on découvrait sensiblement les mêmes techniques au même rythme un peu partout sur la planète.
Ah, c'est vrai, on peut faire cette comparaison. On était intelligent, là, tu sais.
Avec les moyens qu'on avait, oui, absolument. On maximisait les outils qu'on avait à l'époque. On avait réussi à développer des outils, puis on maximisait l'utilisation de ces outils-là pour réussir à faire ce qu'on voulait. Comme on a dit dans plusieurs autres épisodes, dans 1000 ans, dans 2000 ans, les gens vont regarder ce qu'on faisait en 2020, ils vont dire, voyons donc, comment ils ont réussi à faire ça avec des outils aussi rudimentaires? Ben, c'est ça, on se débrouillait avec ce qu'on avait. Et eux, c'est la même chose. Et avant ça, les peuples se débrouillaient avec autre chose. Mais l'évolution s'est faite sur une longue période de temps, mais à un rythme relativement similaire partout sur la planète.
Exactement. Pour parler un peu des statues, encore Jason, là, les statues étaient bâties sur les Aou. Les Aou, c'est des plateformes cérémonielles construites à cet effet. Donc, on construisait des plateformes pour ensuite là, mettre les statues en ligne, là, tout en ligne droite. Là, vous avez sûrement vu les photos sur le web, les fameuses lignes de statues sur les Aou, donc des plateformes cérémonielles construites à cet effet. Et donc, les statues, là, c'est sûr qu'il y a des livres, des ouvrages qui essaient de décortiquer pourquoi, comment ils étaient genre face à la mer. Il y en a d'autres qui sont face à la terre. Ils ont aussi un chapeau, là. Les statues ont souvent un chapeau. Et là, il y a une théorie qui dit que c'est probablement parce qu'il y avait des Incas qui faisaient partie des premiers des premières personnes qui sont arrivées sur l'île, parce que l'Amérique du Sud a été peuplée justement là, vers entre 3300 et genre 1200. Fait qu'ils disent que la technique de construction, tu sais, les Incas, ils étaient très, très bons pour bâtir des genres de pyramides là, en Amérique du Sud. Donc, il y avait il était très intelligent pour bâtir des grosses affaires. Puis, ils disent que probablement qu'il y avait des Incas aussi à travers les premiers habitants de l'île de Pâques. Et ça serait les Incas qui, en Amérique du Sud, portaient un genre de chapeau. Donc, ça ferait partie un peu de la culture Inca. Mais ça, c'est pas sûr. C'est une hypothèse.
Il y a eu un métissage de culture au moment où on a peuplé l'île de Pâques et on aurait... intégrer certaines parties de culture Inca parmi la culture polynésienne, on aurait l'île serait devenue une espèce de mélange de ces cultures-là.
C'est ça, exactement. Donc, de 1200 à 1600, il y aurait donc des gens de la Polynésie qui serait arrivé sur l'île, mais il y aurait aussi des Incas, et ça aurait créé une belle civilisation où, on idolâtrait le premier roi Otomatua en bâtissant ses statues tout autour de l'île. Donc, ça allait bien, Jason.
Mais oui, Tristan, est-ce qu'on sait de quoi on subsistait? Est-ce qu'on sait, parce que bon, de partir comme ça, puis aller à 2000 et plus que 2000 kilomètres de l'île la plus proche, on le sait qu'on reviendra probablement pas. Alors, il faut savoir, est-ce qu'on va survivre sur cette île-là? Et on a décidé d'établir une civilisation qui a quand même fleuri pendant 400 ans. On mangeait, on se logeait, on s'habillait, on pouvait construire des choses. Parce que les gens aujourd'hui qui vont sur l'île de Pâques, c'est pratiquement une île déserte. Là. À part les statues, il ne reste plus grand-chose sur cette île-là. Mais à l'époque, si on a réussi à subsister pendant 400 ans, puis d'être bien pendant 400 ans, c'est qu'il y avait, quelque chose pour manger, pour se loger, pour s'habiller. Et on pouvait survivre sur l'île. Là.
Oui, j'ai pas vraiment trouvé d'informations détaillées, mais ils disent que c'était beaucoup des pêcheurs.
D'accord.
Donc, les premiers qui sont arrivés en petit bateau, là, souvent, c'était des pêcheurs, des experts de la pêche. Donc, j'imagine qu'on a vraiment exploité les ressources autour de l'île tout en respectant là, les ressources disponibles. C'est inscrit qu'il y avait des ressources assez limitées, mais on avait une société complexe et bien adaptée à son environnement. Ça veut dire que probablement qu'ils connaissaient justement les trucs de la pêche du coin. Probablement que c'était de la pêche. Il y avait peut-être un peu d'agriculture, mais ils n'étaient pas dans le besoin. Ils étaient capables de se nourrir, en tout cas. Puis
Et faisaient attention de ne pas excéder la capacité de leur environnement à fournir. Donc, on y allait pas. C'était pas de la pêche sauvage qu'on faisait. On y allait vraiment pour se nourrir.
Exactement. Exactement. Donc, c'est pas mal de là que ça vient, les statues. Puis là, il se passe de quoi en 1600? En 1600, tout change. Il y a quelque chose qui arrive.
Là, on parle de 400 ans où on a une société qui a continué à se développer puis à avancer. Faut qu'il se passe de quoi si on a une date de fin, on a une date d'expiration de cette société-là. C'est habituellement, le déclin se fait pas du jour au lendemain, mais il y a quand même un déclin qui s'installe à un certain moment donné.
Exactement. Donc, ce déclin-là, il y a plusieurs théories. On parle peut-être d'un séisme, de tsunami, de sécheresse, de désertification, de crise sociale, de révolte contre les élites. Tout ça, c'est des hypothèses. On ne sait pas ce qui s'est passé en 1600, Jason.
Ah! On sait que la société a décliné, mais on ne sait pas pourquoi.
Exactement. Et on a même changé de religion. Donc, on a arrêté célébrer Otomatua, le premier roi, et on a commencé à célébrer le dieu Makemake, qui serait une religion assez connue là, en Polynésie. En gros, c'est une genre de créature mi-homme, mi-poisson, mi-oiseau, qui est arrivée sur un petit îlot près de l'île de Pâques, qui a apporté un œuf. Celui-ci donne vie aux humains. Ça rappelle un peu la cosmogonie polynésienne, selon laquelle le genre humain proviendrait d'eux, pondu par des oiseaux ayant copulé avec des poissons après la formation de la mer et l'émergence des premières terres à partir du chaos primordial. Donc ça, c'est...
wow.
On a commencé à croire à Makemake, qui est représenté comme un homme avec une tête d'oiseau. Donc, à partir de 1600, on a arrêté de bâtir des statues.
Et c'est là qu'on va prendre une petite pause et j'imagine qu'on va quand même jaser de quelques théories là, en lien avec ce déclin-là.
Oui, absolument. De 1600 à 1800, on va parler un peu de ça, mais après ça, je vais vous parler du tragique destin des habitants de l'île de Pâques.
Excellent. Alors, on prend une petite pause, Tristan, et on revient avec de qu'est-ce qui s'est passé pour que l'île de Pâques soit maintenant... c'est une attrape touriste, là, mais il n'y a plus grand monde qui habite là, parce qu'il n'y a plus ben de ressources non plus là, sur place. Alors, on revient tout de suite après la pause.
Les dossiers bizarres est une présentation de...
Sur les ondes de C'est Noël, ce soir dès 19h, ne manquez pas le drame d'aventure, le seigneur des agneaux, la communauté du mouton.
Mouton Saké, vous devez former une communauté d'aventuriers pour vous rendre sur le Mordor.
Dans ce drame épique, un jeune mouton un peu naïf se retrouve propulsé dans une quête aux proportions titanesques.
Un agneau pour les gouverner tous. Un agneau pour les trouver. Un agneau pour les amener tous. Et dans les ténèbres, les lier au pays de Mordor où s'étendent les ombres. Vous ne passerez pas! Je te l'avais dit que tu passerais pas. Fuyez, pauvre fou!
Le Seigneur des Agneaux, la communauté du mouton, seulement sur C'est Noël, la radio des émotions.
Nous sommes de retour à l'émission Dossier bizarre avec le sujet aujourd'hui présenté par Tristan. On parle de l'île de Pâques. Alors là, Tristan, on a fait un peu l'historique, on l'a positionné sur la Terre, dans l'océan Pacifique. On sait que c'est un archipel, mais avec des îles qui sont très distancées les unes des autres. On le sait qu'en 1200 environ, les premiers habitants sont arrivés. Le premier roi, pendant 400 ans, a été honoré. C'était plus ou moins leur divinité, même si c'était un homme à l'époque où ils sont arrivés. Et là, on arrive en 1600 et tout change dans la société. Après une société qui était bien établie, qui allait bien et qui était... prospère, plus ou moins, on arrive et on a un changement qui est quand même assez rapide, là.
Oui, exactement. Il s'est passé quelque chose autour de 1600. Il y a plusieurs anthropologues, archéologues qui recherchent, qui ont passé leur carrière, en fait, à essayer de découvrir qu'est-ce qui s'est passé. La plupart des théories, c'est un séisme, des tsunamis, sécheresse, désertification, crise sociale. Peut-être tout ça en même temps. Peut-être que le tsunami causé par le séisme aurait... apporter une crise sociale parce qu'il manquait de ressources et là, tout a changé à partir de ce moment-là. On a même arrêté de bâtir des statues à partir de 1600 et on a même changé de religion. Donc, on a commencé à célébrer le dieu Makemake plutôt que le roi Otomatua.
Mais ça, si on a changé de religion, c'est que pendant 400 ans, on est isolé, là. On est relativement isolé. J'imagine qu'il ne devait pas avoir des touristes là toutes les fins de semaine qui venaient d'un bed and breakfast sur l'île de Pâques. À un moment donné, c'est qu'il y a des gens qui ont importé la nouvelle religion, qui sont venus plus ou moins là, convertir les gens à leur religion. Et il faut qu'il se soit passé quelque chose comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé un matin et qui a inventé une nouvelle religion.
Non, c'est ça. Ben, de ce que je comprends, c'est qu'on idolâtrait le premier roi Otomatua, mais dans les 400 ans, effectivement, il y a une sorte de spiritualité, de religion qui s'est créée autour de l'île. Les gens qui vivaient là, comme chaque être humain du globe, se posent la question d'où nous venons,
ben oui.
Pourquoi nous sommes là. Et cette théorie, ces explications ont été en fait trouvées par l'apparition de cette histoire du dieu Makemake, qui vient en fait, là, qui est quand même assez connu. On appelle ça la cosmogonie polynésienne. Donc, c'est une sorte de religion qui circule dans la Polynésie. Donc, le premier peuplement, les peuples d'origine de l'archipel de la Polynésie, c'est un peu une sorte de religion commune, là.
Donc, c'était pas unique à l'île de Pâques, cette nouvelle religion-là. C'est une religion qui existait ailleurs aussi et qui a existé ailleurs.
Exactement. Donc, c'est, comme je disais tantôt, là, le fameux genre humain qui proviendrait d'œufs pondus par des oiseaux ayant copulé avec des poissons.
Ouais, la biologie n'était pas super évoluée à cette époque-là. Hein. Ils comprenaient pas que ça marchait.
Mais il y a quand même un petit... l'île de Pâques ont pris cette théorie-là. Et ils l'ont adapté un peu à leur île parce que ils disent que eux, ils sont apparus d'un petit îlot, Moto Mui, qui est à côté de l'île de Pâques. Donc, c'est là qu'il y a eu le premier œuf de ce dieu-là. Puis c'est de là que, dans le fond, qu'il viendraient les habitants de l'île de Pâques. De ce que je comprends, c'est comme si ce genre d'oiseaux humains qui se promenaient sur les îles, puis ils laissaient des œufs. Ces œufs-là donnaient naissance au genre humain qui peuplait l'archipel de la Polynésie.
Quand on a un changement de religion comme ça, habituellement, c'est un mouvement social drastique et souvent, ça se fait pas sans heurts. Habituellement, ça vient justement de une mini-révolution qui commence tranquillement et qui finit par prendre de l'ampleur. Et souvent, la majorité va devenir la puissance religieuse de la place. Alors, si on a changé, après 400 ans, à honorer le premier roi et que là, on arrête de construire des statues, on arrête d'honorer le premier roi, habituellement, c'est un effet ou c'est un résultat, un symptôme de quelque chose qui se passe. Tu as parlé d'instabilité sociale, où on a peut-être là, décidé de se révolter contre les élites de la société de l'île de Pâques. Il y en a plusieurs phénomènes. On est sur une île volcanique. Habituellement, l'île volcanique, il y a de l'instabilité géologique. Donc, il peut y avoir des séismes, il peut y avoir, tu as parlé de tsunami aussi. Ça peut être un paquet de facteurs, un effet domino comme ça, qui peut avoir amené à ça.
Oui, exactement. C'était exactement ça. Puis, elle est vraiment située sur une faille là, tectonique. Mm-hmm. Donc, les séismes, c'est clair qu'il y en a eu dans ces 400 ans-là. Puis, ils ont l'air vraiment d'avoir vécu, tu sais. Moi, si j'avais une machine à voyager dans le temps, là, je pense que j'irais là, voir qu'est-ce qui s'est passé autour de 1600 sur cette île-là. Parce que, comme tu dis, il y a un phénomène qui est apparu. Ça a peut-être été créé par un séisme, un tsunami. Mais il a dû se passer des choses étranges en tabarouette sur cette île-là.
Ben oui, parce qu'on ne change pas. Surtout une île isolée comme ça, qui est pratiquement... est protégée par la nature des influences extérieures. Pour qu'une nouvelle religion fasse son apparition, premièrement, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que quelqu'un l'importe, cette religion-là. Il faut que quelqu'un vienne en parler. Il faut qu'il y ait des gens qui l'amènent. Mais il faut en plus que ce soit très, très fort comme mouvement. Parce que isolé comme ça, pendant 400 ans, ils n'ont pas vu ben, ben d'autres choses. Fait que pour convaincre quelqu'un qui a vécu isolé pendant 400 ans que dans le fond, son peuple a fait fausse route, faut que ce soit appuyé par autre chose. C'est pas juste quelqu'un qui est arrivé et qui a dit « Hey, moi je connais un poisson homme qui pond des œufs. » Et il est arrivé quelque chose probablement en lien avec ça qui a fait que les gens ont décidé d'explorer d'autres avenues que celles qu'ils connaissaient déjà.
Exactement. Puis ça a été ça s'est fait sur quand même une certaine période de temps, mais à partir de ce moment-là, les statues ont arrêté d'être bâties. On a arrêté de bâtir les statues. Il y a même des statues qui étaient encore dans la carrière, Jason, qui étaient à moitié finies, puis les habitants ont décidé de « Oh, qu'est-ce qu'on fait à perdre notre temps à bâtir, à donner tout cet effort-là pour bâtir des gros statues? Ça sert à rien! Maquée! »
Donc, on a abandonné des statues qui étaient en construction.
Oui, exactement. On a trouvé dans la carrière, il y avait plein de statues qui n'étaient pas finies. Puis la population de l'île de Pâques vers 1600 a décidé de vraiment arrêter ce processus-là de bâtir des statues, les statues de l'île de Pâques.
Donc, c'est quand même assez soudain comme décision là, d'arrêter de produire des statues pour honorer notre dieu, plus ou moins. Là, c'était leur dieu, c'était la personne qu'ils vénéraient. C'est qu'on arrête en plein milieu d'une construction. J'imagine que ça prenait pas une semaine à faire là, des grosses statues comme ça, mais quand même qu'on arrête là, durant la construction, c'est qu'il s'est passé quelque chose, c'est clair.
Exactement. Sûrement qu'il y a eu au niveau de la hiérarchie des gens qui étaient quand même qui avaient un certain pouvoir sur l'île. J'ai lu là, dans certaines sources qu'il y avait probablement autour d'une dizaine de clans quand même, tu sais, de grandes familles qui se partageaient cette île-là. Et il y avait quand même certains leaders. Donc il y a peut-être d'autres leaders qui ont pris la place de ceux qui étaient au pouvoir depuis longtemps, qui eux ont dit « Ah gars, tu sais... arrêtez de nous faire bâtir des statues, là. » Il y a peut-être, au niveau de la hiérarchie puis du pouvoir, il y a peut-être eu quelques guerres de clans, de familles, et puis le pouvoir a probablement changé. Là,
mais justement, Tristan, est-ce qu'on a trouvé des vestiges de la civilisation autre que les statues? Parce que je regarde là, dans l'histoire, il y a eu César qui s'est battu contre les Gaulois. On a des champs de bataille où on trouve des traces de tout ça. On est capable de reconstruire un petit peu le fil des événements et de la bataille. Bon, pas seulement par ça, il y a des écrits aussi, mais on est quand même capable de trouver là, des restes l'histoire de ces grandes batailles-là, de ces grands mouvements sociaux-là, et de reconstruire avec ce qu'on sait déjà. Et là, on retrouve des pièces par l'archéologie qui disent « OK, ben là, on voit qu'il y a eu un campement ici qui appartenait aux Romains, on a un campement ici qui appartenait plus à comment ça s'appelait le chef, le Vercingétorix, je pense, à sa gang à lui. Ah, il y avait une palissade, OK, donc il est arrivé... » Puis là, sans nécessairement être précis à 100% à la minute près, mais on a quand même une idée des mouvements qui se sont déroulés. J'imagine qu'on a trouvé autre chose sur l'île de Pâques que juste des statues.
En fait, c'est une excellente question, Jason, parce que ça amène un peu le prochain sujet, la prochaine thématique du sujet. Premièrement, je tiens à dire que les statues, on a eu des études au radiocarbone qui nous ont permis de savoir qu'elles dataient de 1300, de 1400, de 1500. Donc, c'est avec cette étude, ces études de radiocarbone qu'on a pu déterminer que de 1200 à 1600, c'est là que les statues ont été bâties. Par contre, l'île a été polluée, Jason, par un massacre, des massacres par les colonisateurs à partir de 1850. C'est triste à dire, mais moi, je suis pas mal sûr que c'est ça, là, les traces archéologiques qu'on aurait pu trouver qui dataient de 1300, 1400, 1500, ont probablement été prises, enlevées, éradiquées, détruites par les colonisateurs du Pérou qui sont arrivés. Mais ça, juste avant, on va y aller en ordre chronologique.
Oui, vas-y.
Avant de vous parler de la disparition du peuple, qui est vraiment tragique, je vais vous parler des, tu sais, les premiers Européens qui ont découvert l'île.
D'accord.
Donc, le premier Européen, c'était un pirate.
Aha!
Le pirate Edward Davis qui est arrivé en 1687.
Ils ont tout un des noms cool, hein, les pirates. Edward Davis. Oui. Ça fait rockstar en même temps. Puis c'est comme, c'était une époque super reculée, mais il y a quand même un nom d'acteur ou de personnage de film. C'est cool, les pirates.
Ouais, vraiment. Puis, en plus, son bateau, c'était le Bacchalor's Delight.
Bacchalor's Delight. Ah, c'est écœurant. Hein. Donc, c'est lui qui était fait qu'il est le premier à avoir plus ou moins redécouvert l'île de Pâques.
En fait, c'est le premier, justement, européen occidentaux qui a découvert l'île, mais il n'a pas accosté. Lui, il venait des îles Galapagos, puis il naviguait en direction du Cap Horn. Et son coéquipier, Lionel Wafer, décrit une île aperçue par hasard sous la même latitude que l'île de Pâques, sur laquelle ils n'effectuèrent pas de débarquement. Et donc, ils ont passé à côté. Là, il y a son coéquipier, Lionel Wafer, qui a fait « Ah, il y a une autre île là-bas! Ah, ben OK, excellent! » Ils ont juste passé à côté, mais ils l'ont noté dans leur écrit.
Île avec des grosses faces. Fait que c'est ça. Ils ont pris une note.
C'est ça. Le nom de l'île, l'île de Pâques, est dû au Hollandais Jacob Rogven, qui accosta avec trois navires au cours d'une expédition pour le compte de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales. Il la découvrit en effet le dimanche de Pâques, 1722.
Aha.
Donc c'est pour ça qu'on l'a appelée l'île de Pâques, c'est parce qu'il l'a découvert le dimanche de Pâques 1722.
Donc, première fois qu'on mettait pied sur l'île après la disparition de la population et que vraiment on documentait la position et qu'on en prenait plus ou moins possession à l'époque.
En fait, ouais, exactement. Puis, mais ils ont été pacifiques au moins, eux.
Oui!
Parce que après ça, en 1850, là, c'est là que la tragédie arrive.
OK. Quand
tu parlais justement de comment ça se fait qu'on n'a pas de preuves archéologiques, là, des villages et tout, c'est parce qu'il y a eu vraiment un gros massacre, Jason.
OK.
La population d'origine, les Matamois, serait passée de 2500 personnes à seulement 111 en 1877.
OK.
Il y a des marchands d'esclaves du Pérou qui, de 1859 à 1863, ont fait des raids. Donc, ils ont massacré et déporté les Matamois. Donc, ça ne va vraiment pas être joli, là, ces temps. C'était vraiment pour les massacrer ou les vendre aux exploitants de guano des îles Chincha. Donc, la société Matamois est totalement déstructurée par la capture et le massacre en 1861 des Pérouviens. Là.
Hey, OK. Fait que donc, c'est, fait que était encore habité, là. Si on parle de 1850, 60, 70, il y avait encore des gens qui vivaient à temps plein sur l'île.
Exactement. Il y avait 2500 Matamois qui vivaient là en 1857, avant l'arrivée des Pérouviens. Donc, ils ont passé en l'espace de 10 ans de 2500 à 111. Et en 1861, c'est là qu'il y a vraiment eu un massacre. Donc, le massacre et la capture des Matamois par les guerriers du clan Miro, qui se nommaient comme étant des descendants du premier roi Otto Matua.
Ah oui, en plus!
Donc, c'était le clan Miro qui revendiquait descendre de Otto Matua, dont faisait partie le Kemakua. Donc, c'était comme le chef qui, lui, se disait le prince héritier du premier roi Otto Matua. Donc, c'est lui là, qui est arrivé avec les Pérouviens et qui a massacré tout le monde. Après ça, Jason, c'est le début de la fin là, pour le peuple, parce que il y a eu la tuberculose introduite par les Européens.
Ben oui, évidemment.
Qui a frappé la population. Donc, les derniers 111 qui restaient là, sont pas mal tous décédés de la tuberculose. La population diminue encore fortement durant les années 1860 et 1870, avec pour résultat qu'après les immigrations ultérieures en provenance essentiellement des îles australes, de Tahiti et de Taumatu, les Matamois d'origine ne représentaient que 3% de la population pascuane.
Hey boy.
Donc, c'est vraiment tragique, mais ils ont leur culture, tout ce qu'on aurait pu apprendre, connaître justement du passé des Matamois a été déstructuré, détruit par toutes ces attaques consécutives là, au courant de la moitié du 19e siècle.
Ils ont été pratiquement effacés de l'histoire complètement, là.
Exactement.
C'est la raison pour laquelle ça nous a pris autant de temps à comprendre les statues, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui est arrivé, puis l'île, on aurait dit là, que l'île avait jamais été habitée, puis que les statues avaient été juste là pendant de nombreuses années. Moi, quand j'étais jeune, on n'avait pas beaucoup de réponses, puis ça fait pas longtemps, là, j'ai quand même juste 45 ans, mais on n'avait pas beaucoup de réponses sur sur l'île de Pâques, les statues, et le pourquoi les statues étaient là. On n'en savait pas beaucoup, alors ça a pris du temps avant qu'on réussisse à reconstruire un peu tout ça, parce que tu l'expliques bien, on a tout détruit ce qu'il y avait sur l'île. Il restait pas grand-chose et même les habitants ont été décimés. Donc, plus de tradition orale. J'imagine qu'on n'avait pas beaucoup d'écriture non plus sur l'île. Alors, tout se faisait en tradition orale probablement et en tuant tout le monde et en détruisant tout ce qu'ils avaient laissé derrière eux. Il restait pas grand-trace, grand-preuve pour essayer de décortiquer tout ça. Raison pour laquelle, en 2021, on ne peut pas encore affirmer, hors de tout doute, là, tout ce qui a pu se passer.
Non, exactement. Puis, au niveau de la tradition orale, en fait, le langage, le Rapa Nui, comme tu dis, c'est les seules archives qu'on a comment on peut fouiller le passé de ces gens-là. C'est en parlant aux ancêtres, aux aînés qui se sont partagés les connaissances de génération en génération. Et à travers toute l'archipel de la Polynésie, on dit qu'il reste à peu près seulement 800 personnes qui parlent le Rapa Nui.
Ah.
Donc, c'est vraiment triste, mais c'est alors qu'ils étaient des milliers et des milliers pendant des centaines d'années, c'est un peuple qui a été complètement éradiqué par les peuples colonisateurs de l'Amérique, en fait.
C'est la disparition d'une culture, et malheureusement, bon, c'est le cycle de la vie aussi, hein, parce que ce ne sera pas la première ni la dernière culture à disparaître, mais ça reste que maintenant, on documente tellement tout, je veux dire, on documente même ce qu'on mange tous les soirs, là. Mais à cette époque-là, tout n'était pas documenté. Alors, quand ces cultures-là disparaissent, non seulement les gens pratiquant la culture disparaissent, bon, parce qu'ils sont absorbés par une autre culture ou ils décèdent, mais les traces qu'ils laissent sont tellement minimes, il n'y en a pas du tout, c'est que la culture elle-même, la mémoire de cette culture-là disparaît avec eux.
Oui, exactement. Puis c'est triste. Puis quand on regarde ça avec un pas de recul, c'est comme de 1200 à 1600, il y a une belle civilisation qui a existé sur cette île-là, puis ça allait quand même bien. Après ça, à partir de 1600, bon, il y a eu un événement qui s'est produit. Là, ça commençait à aller vraiment moins bien. Puis en 1850, bon, là, c'est vraiment la fin de ce peuple-là. Mais on se rend compte qu'à travers les époques, tu sais, que ce soit l'Antiquité, le Moyen-Âge, sur certains endroits du globe, il y a eu des avancements technologiques de sociétés qui ont perduré pendant quelques centaines d'années. Donc, il y a eu comme, tu sais, à certains endroits, c'était archaïque, médiéval, tandis que dans d'autres endroits, il y avait des avancements technologiques impressionnants. Donc, c'est fou comment je trouve que ça me fait penser un peu à le peuple égyptien, qu'on en a parlé, des pyramides et tout, à différentes époques, à différents moments, à différents endroits sur le globe, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des civilisations assez évoluées, parfois même plus évoluées que le futur.
Oui, ben c'est ça, parce qu'il y a eu des périodes noires par après qui, socialement, on était complètement désorganisés, alors que on parle souvent de la technologie, de l'ingénierie, comme on a fait pour construire les pyramides, comme on a fait pour transporter les énormes statues sur l'île de Pâques, mais d'un point de vue technologie sociale ou ingénierie sociale, il y avait des civilisations, comme tu le dis, la Grèce, l'Égypte, on a eu des moments où des sociétés qui vivaient en paix dans un système très bien organisé, relativement démocratique. C'est sûr que la démocratie telle qu'on la conçoit aujourd'hui versus la Grèce antique, c'est pas la même chose, mais il y avait quand même un système qui était établi pour que les gens puissent bien vivre dans ces sociétés-là. C'était des avancées qui étaient aussi importantes que l'ingénierie d'être capable de construire des immeubles là, immenses. Et souvent, comme tu le dis, il y avait des avancées qui se faisaient un peu partout à ce niveau-là aussi, où on tentait de trouver la manière de vivre en groupe, de vivre de manière un peu plus sédentaire, parce que bon, à un moment donné, quand on a appris à faire de la culture sans être obligé de se déplacer pour faire de la cueillette, on s'est rendu compte qu'on pouvait construire un village qui devenait un plus gros village, qui devenait un plus gros village, qui devenait une ville, qui devenait à un moment donné un énorme établissement avec plein de milliers de gens à l'intérieur. On a dû apprendre à se réorganiser, puis ça s'est fait de manière naturelle, puis sensiblement, un peu partout sur la planète, on a vécu le même phénomène. On parlait des Incas, des Mayas, on parle sur l'île de Pâques, on a établi un système dans un milieu complètement isolé, on n'avait pas beaucoup de contact avec le reste. On a quand même développé des choses similaires à ce qui s'est fait ailleurs, c'est quand même assez impressionnant.
Oui, vraiment. Hein, c'est ça, c'est hallucinant. Peut-être un petit fait cocasse là, que j'ai trouvé en fouillant. Il y a une certaine légende qui disait que les îles de la Polynésie, de l'archipel de la Polynésie, c'était en fait le sommet de l'ancien continent de l'Atlantide.
Ah, le mystérieux continent de l'Atlantide. Et oui, hein, on ça a souvent été dit que c'était dans ce coin-là que l'Atlantide avait été submergée et que oui, il y avait des restes et que souvent les statues c'était mystérieux. On pensait que c'était des vestiges à un certain moment. Il y en a qui disaient que c'était des vestiges d'Atlantide, justement, là, des Atlantes, les Atlantes, les athlètes, les Atlantéens, en tout cas, eux autres là.
Non, c'est vrai, il y a eu cette théorie-là dans toutes les théories, disons, un peu plus farfelues.
Ah oui, dans les théories farfelues, on a parlé d'extraterrestres, on parle d'Atlantide. T'en as-tu vu d'autres passer ou c'était pas mal les principales dans les théories un peu plus tirées par les cheveux?
C'était pas mal les deux théories que j'ai retirées, c'était ça, c'était les extraterrestres puis les Atlantes de l'ancienne cité, de l'ancien continent de l'Atlantide. C'est pas mal ça, dans le fond. Ces deux-là qui ressortaient.
Ouais. Ben, c'est sûr qu'ils ressortent beaucoup. Une chose que moi, un mythe que j'avais entendu quand j'étais plus jeune, je te l'ai dit, hein, quand j'étais plus jeune, on n'en savait pas tant que ça sur l'île de Pâques. Il y avait beaucoup de théories, il y avait beaucoup d'un peu n'importe quoi qui se disait sur l'île de Pâques. Moi, tu vois, on m'avait dit que l'île de Pâques s'était dépeuplée, qu'il y avait eu une déchéance sur l'île de Pâques parce que on avait utilisé tout le bois pour construire des maisons, pour construire différents villages. On avait utilisé le bois également parce qu'on transportait tellement de statues, on devait faire des radeaux puis des bios pour transporter les statues, il y avait eu une déforestation qui s'était faite sur l'île de Pâques, qui avait amené une certaine désertification, qui avait amené un manque à plusieurs endroits. Bon, légumes, fruits, on n'était plus capable de faire pousser nécessairement à cause de la déforestation, et que là, il y avait des lacunes, il y avait des carences dans leur alimentation, parce que oui, le poisson était relativement abondant, mais il y a des carences qui se sont installées à d'autres niveaux dans leur alimentation, qui a fait qu'il y a des maladies qui se sont installées. La déchéance sociale, mentale et tout ça a fait qu'on s'est mis à construire tout croche, les statues étaient moins belles, étaient moins réussies, etc. Et là, que là, tout aurait parti de là. Tu vois, c'est une des théories que moi, on m'avait expliqué quand j'étais jeune. Et c'était Je dirais pas qu'elle était acceptée, mais c'était une théorie qui était quand même assez répandue. C'est ce qu'on croyait. On se disait, l'île est pratiquement déserte aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de végétation, mais on pense que c'est à cause de la déforestation que ce peuple-là, entre 1000 ou 1200 et le moment où ils sont disparus, ont tellement déforesté, ont tellement coupé de bois sur leur île, sans penser à renouveler la ressource, qu'ils se sont fait prendre. Et à un moment donné, l'île s'est désertifiée à cause de ça.
Ben, c'est une théorie qui peut absolument être vraie là, au niveau de qu'est-ce qui s'est passé en 1600, là, dans le changement drastique de leur civilisation, de la société. On parle justement de ça, de sécheresse, désertification. C'est deux hypothèses qui sont possibles. Et j'étais tombé justement là-dessus, là, le bois qui manquait vers 1600. Mais tout ça, ça reste que malheureusement, on peut pas dire qu'à 100%... Là,
on ne le saura jamais.
C'est ça, exactement, parce qu'il fallait être là, en fait, en 1600, ouais. Pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, le déclin, le début du déclin de la civilisation des Matamoas. C'était effectivement fait vers 1600, et c'est probablement, bon, manque de ressources, manque de bois, sécheresse, crise sociale, révolte contre les élites, d'où le changement de religion.
Il y a un paquet de facteurs, probablement, qui sont impliqués là, dans ce déclin soudain d'une civilisation qui a été prospère pendant 400 ans.
Exactement. Mais le manque de bois, c'est sûr que c'est une île qui est très désertique, qui est très, très... Il n'y avait pas beaucoup de ressources, c'est ça qui s'est inscrit.
C'est pas des forêts comme on connaît ici, là, en Amérique du Nord, par exemple.
Exactement. C'est inscrit dans les sources qu'à la base, quand le peuplement est arrivé en 1200, ils se sont installés là, en sachant très bien qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources.
Ouais.
C'était une île assez limitée. Mais ils ont quand même réussi à s'installer. Puis en 1850, quand les gens du Pérou sont arrivés pour le massacre, au tout début, il y avait quand même 2500 personnes qui vivaient là. Sur
une île de 160 km² environ, c'est quand même pas pire, là, 2500 personnes.
Exactement. Donc, même si de 1600 à 1850, ça allait moins bien, ils ont quand même réussi à poursuivre leur vie. Mais ça devait être plus difficile, puis ils bâtissaient plus de statues.
En 2021, Tristan, moi, ce que j'ai vu sur l'île de Pâques, parce que j'ai quand même été fouiné un peu parce que je connaissais ton sujet. Puis ce que j'ai retenu pour ce qui est de l'ère moderne, c'est que, bon, tu parles de 1850, au milieu du 19e siècle, on a commencé à décimer l'île, non seulement de sa population, mais de ses trésors. On a tout pris finalement, ce qui pouvait s'amener sur les bateaux, pas juste la population, mais aussi tout ce qui s'amenait. J'imagine les meubles, n'importe quoi qu'on était capable de voler, on le prenait. Là, en 2021, le problème, c'est les touristes, les fameux influenceurs et les influenceuses là, qui décident d'aller faire des photos partout, puis d'envahir les différents sites historiques de la planète. L'île de Pâques n'y échappe pas actuellement. Et on dit que les touristes là, sont en train de détruire à nouveau l'île de Pâques. Est-ce que sur l'île de Pâques actuellement, est-ce qu'il y a des gens qui habitent là en permanence? Est-ce qu'il y a autre chose que juste du tourisme pour aller voir les fameuses statues?
Oui, ben j'avais lu le chiffre juste avant le podcast, là, l'enregistrement du podcast, Jason, j'avais lu 7000 personnes qui vivent là. Ça, c'est 7000 avant les touristes.
Oui, oui, ben c'est ça, c'est 7000 résidents.
Exactement, 7000 résidents. Mais je suis tombé sur un fait, peut-être que je pourrais clore là-dessus, qui était vraiment d'actualité, que j'ignorais, en fait. Là, j'en avais entendu parler, mais je ne savais pas que c'était là précisément. Les îles de l'archipel de la Polynésie ne seront plus habitables d'ici 100 ans.
Oui.
Parce que la hausse du niveau des mers due au réchauffement climatique et la fonte des glaces, c'est les premiers endroits sur Terre qui vont être touchés, c'est les îles de l'archipel de la Polynésie qui sont en train de commencer à bâtir un plan d'évacuation. Là.
Oui, ben absolument, parce qu'ils sont à peu près au même niveau que la mer. Puis il y a déjà des îles qui ont commencé à perdre là, quand même une bonne partie de leur surface à cause de la hausse des niveaux de l'eau, les niveaux de la mer. Et on en voit, il y a des documentaires là, très, très bien documentés. Puis c'est pas pour faire peur aux gens avec le réchauffement climatique, mais c'est un fait vérifié, avéré, que ces îles-là ne seront plus habitables. Et on a déjà certaines îles qu'on a commencé à évacuer ou à ramener les habitations plus vers le centre de l'île, parce que déjà le petit changement qu'on a là, au niveau de la hauteur des mers fait qu'il y a certaines îles que déjà on commence à voir une différence là, au point de vue géographique et que oui, ça va s'accentuer avec le temps. Alors j'imagine qu'on va tout perdre ça éventuellement, peut-être pas de notre vivant à nous, mais éventuellement ces îles-là vont être ensevelies sous la mer.
Exactement, non, sans vouloir trop faire de terrain sur le réchauffement climatique. On, On le sait que la fonte des glaces est exponentielle. T'sais, à chaque année, plus il fait chaud. À chaque année, on bat les records de réchauffement global du climat et de la Terre. Mais c'est vraiment bon, on le sait, là, le Groenland, l'Arctique, l'Antarctique. Mais cette hausse du niveau des mers, selon le GIEC, là, le groupe intergouvernemental des experts sur le climat, ils disent que on parle d'un mètre d'ici 100 ans. Mais à ce rythme-là, plus à chaque année, plus on se rend compte que ça fond de plus en plus vite, ben ça pourrait monter encore plus vite. Et sans vouloir être pessimiste, là, mais sans vouloir faire de trop de terrain là-dessus, mais on pourrait peut-être le voir de notre vivant, moi je pense.
Ben, on va voir sûrement une modification, un changement là, au niveau de certains endroits. Je veux dire, Venise également, là, qui va finir par être dans le trouble. Il y en a plein d'endroits dans le monde comme ça où on en parle déjà, où on établit déjà certaines choses, où on déplace déjà des gens. Fait que c'est pas quelque chose là, qui est loin là, dans 2000 ans. Là, c'est quelque chose qui se passe actuellement. Les modifications se passent au moment même où on se parle. Alors, mais la conclusion de tout ça, ou le maximum de tout ça, le point culminant de tout ça, est peut-être là, dans 100 ou 150 ans ou 200 ans. Mais oui, de notre vivant, c'est certain qu'on va voir des impacts de tout ça.
Mm-hmm. Les statues vont finalement terminer leur vie au fond. Ben, pas au fond, là, mais sous l'eau. Ouais. Juste sous la surface de l'eau. On va peut-être voir quand on va passer près de l'île de Pâques dans 100 ans. On va voir juste... une ligne de chapeaux.
Là, ouais, juste les chapeaux qui vont dépasser.
Exactement. Si vous voulez voir une des statues là, des Maui, il y en a dans différents musées. Là, on a répertorié, on a apporté les statues là, aujourd'hui durant notre époque dans certains musées.
Donc, oui.
Je pense qu'il y en a un à New York.
Oui, puis j'imagine qu'on va accentuer un peu également là, la récupération de ces statues-là au moment où l'eau va devenir vraiment une menace là, pour ce trésor. C'est un trésor de l'humanité, c'est un trésor de l'histoire. Alors, j'imagine qu'on va tenter d'en protéger le plus possible également.
Absolument, absolument. Donc, voilà.
Hey, ben finalement, on l'a fait, l'île de Pâques!
Oui, exact. Puis si ça vous intéresse, si vous voulez creuser, essayer de savoir plus à quoi ressemblait la civilisation des Matamua de 1200 à 1600, et qu'est-ce qui s'est passé en 1600? Il y a des tonnes d'ouvrages, Jason.
Oui, puis...
Je me mélangeais. Pour vrai, c'est un sujet un peu comme le... Il y a certains sujets qu'on a fait que il y a tellement de théoriciens qui passent leur vie à essayer de trouver qu'est-ce qui s'est passé qu'on pourrait passer notre vie à fouiller. Là.
Ben, plus un sujet est... où il devient mystérieux parce qu'on le sait qu'on n'aura jamais de réponse concrète. On dirait que ça multiplie le nombre de personnes qui veulent essayer de donner leur propre version, leur propre théorie. On parle d'un lieu mythique, mais on prend des histoires comme le Jack l'Éventreur. À toutes les années, il y a 2, 3, 4, 5 auteurs qui sortent, là, qui disent qu'eux, ils ont trouvé la solution. Ils savent c'est qui le coupable. Il y en a des livres, des romans, il y a des documentaires, il y a tout ce que vous voudrez sur Jack l'Éventreur. Il en sort une quantité phénoménale à chaque année. Pourquoi? Parce qu'on le saura jamais. Alors, tout le monde veut essayer de démontrer que lui a trouvé la réponse et on peut pas dire que c'est pas vrai. On le saura jamais. Il y a certaines théories farfelues puis malgré ça, on peut pas dire hors de tout doute que cette théorie-là n'est pas la bonne. On le saura pas.
Non, c'est ça. Exactement. C'était des dossiers bizarres.
Et qui vont rester bizarres pour le reste de l'histoire de l'humanité.
Alors moi, c'est ce qui complète mon sujet.
Hey, un gros merci Tristan, encore une fois passionnant de voyager dans le monde comme ça et découvrir d'autres civilisations.
Ben oui, puis ce n'est qu'un début, on reprend notre saison 3 dans le fond.
Oui, ben oui, ben là après la pause des fêtes, après le reconfinement, les couvre-feux qui ont été annoncés un peu partout, qui compliquent la tâche à peu près tout le monde, surtout que nous maintenant là, avec la distance, on doit redoubler d'organisation pour réussir à enregistrer. Mais là on va essayer de se donner des rendez-vous hebdomadaires pour essayer d'en produire pendant quelques semaines de temps là, de manière régulière. Et si la situation sociale ne change pas, on va réévaluer au fur et à mesure, mais on va tenter d'avoir une certaine régularité là, pour les prochaines semaines.
Youpi!
Ah oui!
C'est une bonne nouvelle, ça.
Absolument! Hey, un gros merci, Tristan!
Ben, merci à toi, Jason. Merci à vous d'avoir été là. Et on vous invite à communiquer avec nous, nous écrire.
On vous lit tout le temps. On n'a pas toujours le temps de répondre ou de réagir, mais on vous lit. Ça, inquiétez-vous pas. Alors, si vous continuez à nous envoyer des messages, des salutations, des idées de sujets, comme tu as dit, des beaux messages, des fois aussi, là, qui viennent nous toucher un peu plus que d'autres, c'est quelque chose. Là, les gens qui viennent nous jaser, là, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, ça donne le goût de continuer.
Absolument.
Hey, un gros merci. Fait que on... fait quoi, trois fois, je te remercie. Là, c'est ça. Ah ouais, va-t'en, là. Fini, là. Bye bye tout le monde! Tout le monde!
L'émission Dossier Bizarre était une présentation de...
Durant les longs mois d'hiver, il est parfois difficile d'avoir l'énergie nécessaire pour faire tout ce qu'on avait prévu dans une journée. Mais maintenant, vous pouvez vous donner une chance grâce aux céréales...
Électrochoc.
Oui, les céréales...
Électrochoc.
...contiennent l'équivalent de votre apport quotidien en sucre pour une semaine...
Chaque bouchée.
Les céréales...
Électrochoc.
...sont tellement sucrées qu'elles pourraient déclencher vos super-pouvoirs, comme... sentir les couleurs. Oh, yark! Ça sent donc bien pas bon du verre. Devenir une souris qui ralentit le temps. Ou encore parler dans des langues qui n'existent même pas. Les céréales
électrochocs.
Disponible dans tous les garages où on répare des avions.